Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et sur le plateau de Radio Immo et Radio Territoria, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Matagne, le fondateur de Ecov. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors Ecov, entreprise fondée en 2014, entreprise française, pionnière des lignes de covoiturage du quotidien, spécialement conçue pour les territoires périurbains et ruraux, avec l'ambition de faire de la voiture un véritable transport collectif. Petit résumé de ce qu'est Ecov, mais vous allez nous en dire un petit peu plus, Thomas.
C'est très bien résumé.
Bon, merci.
Non, mais effectivement, on travaille pour le compte des autorités organisatrices de la mobilité, donc des collectivités, pour étendre le domaine des transports collectifs aux territoires périurbains et ruraux. Ça commence très vite, hein. C'est pas uniquement le très rural. Donc dès qu'on sort des zones denses, en fait, on n'a pas de transport collectif conventionnel qui fonctionne bien. C'est pas que les élus notamment ne veulent pas, c'est juste que les densités et les flux sont trop faibles pour pouvoir mettre des transports lourds.
Oui.
Parce que un transport qui est très efficace, c'est un transport qui est fréquent. On fait passer un bus par exemple toutes les 10 minutes, un bus à haut niveau de service, ça va chercher une part modale importante de gens. Les gens lâchent le volant pour prendre, parce qu'en fait c'est la liberté, je pars quand je veux. Mais si vous faites passer un bus toutes les 10 minutes dans un endroit où il n'y a pas de quoi remplir les bus, quand bien même vous avez 50 ou 100% de part modale, ça n'existe pas. Donc en fait on est ultra dépendant de la voiture qui s'est construite, qui s'est déployée au 20e siècle, et l'aménagement du territoire, l'organisation de la société s'est faite autour de ça avec des flux très dispersés. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les capacités de transport existent, puisque ces voitures sont là, la demande est associée à leur existence,
bien sûr,
et qu'elles sont vides. Elles sont mal remplies, puisqu'on n'a pas cherché à les remplir. Le taux d'occupation moyen sur le domicile de travail, c'est 1,07. Sur l'ensemble de la vie d'une voiture, c'est 1,6. Donc, on a beaucoup plus de capacités de transport. Et donc, on a partout un foisonnement de sièges libres. Et en fait, notre travail, c'est de comprendre les flux tels qu'ils sont existants de voitures, donc les capacités de transport latentes. Nous, on regarde les sièges libres dans les voitures comme on regarderait des sièges libres dans du bus ou dans autre chose. Regarder les points de convergence, les points de divergence, et de faire en sorte qu'entre ces points structurés, on fournisse un service de haute qualité, comparable à un bus à haut niveau de service ou un métro. Quand un passager vient à un arrêt, fait une demande en temps réel, il n'a pas besoin de réserver, et il part en moyenne en moins de 4 minutes. Donc c'est la fréquence d'un métro.
D'accord.
Donc pour lui, c'est je me déplace dans ces territoires comme si j'avais un métro.
Alors ça, ça crée des défis quand même.
Ah oui, c'est une innovation de rupture.
Il y a des mentalités à changer, il y a
beaucoup
de choses à faire.
D'abord, c'est comprendre les flux, ensuite mobiliser les conducteurs, avoir tout le système qui va bien, effectivement amener à la conduite du changement. Donc en fait, on commence, pour être transparent, plutôt par mobiliser les conducteurs. Parce que les conducteurs, l'objectif, c'est de leur rendre la possibilité de partager un trajet sans aucune contrainte.
Voilà, c'est là où je dis changer les mentalités, parce qu'on
exactement
a souvent tendance à se dire, moi je suis tout seul dans ma voiture, mais ça me va bien.
Voilà, après, s'il y a certains qui veulent rester seul dans la voiture, c'est pas un problème. Dès lors qu'on en capte quelques pourcents, ça commence à bien fonctionner. Donc, et ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux conducteurs de proposer leur siège libre sur la ligne en partant, sans avoir anticipé rien. S'il y a quelqu'un à embarquer à ce moment-là, très bien. S'il y a personne, je continue comme ça. Donc j'ai gardé ma liberté. Ce faisant, j'ouvre. Il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Pour plein de motivations environnementales, économiques, etc. Donc, ils proposent leur siège libre. Ces sièges libres constituent un flux continu de capacités de transport. Et parmi ces conducteurs, certains vont pouvoir lâcher le volant et devenir passager. Donc ça, c'est un changement qui prend du temps. Et devenir passager pour pouvoir laisser la voiture au garage une fois par semaine, deux fois par semaine, puis après définitivement.
Alors, ça, c'était à l'origine, hein, Ecov, depuis 2014. Donc, vous avez évidemment évolué. Et vous êtes l'auteur récemment, Thomas, d'une note intitulée « Reprendre la main sur le véhicule autonome pour une stratégie européenne du système de mobilité autonome ». Une note dans laquelle vous alertez sur le retard pris par l'Europe face aux États-Unis et à la Chine. On en parle beaucoup depuis deux jours ici à Drive to Zero. Est-ce encore un retard rattrapable ou sommes-nous déjà à un moment critique pour notre souveraineté industrielle ?
Alors, oui, c'est rattrapable, mais oui, on a un moment critique. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu la hype du véhicule autonome dans les années 2010, à peu près. Et donc là, on était parti tout feu, tout flamme, partout, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Il y a un peu d'investissement, mais quand même, en Europe, beaucoup moins d'investissement qu'ailleurs. Et puis, ça s'est avéré plus compliqué que prévu. C'est l'innovation, c'est pas facile. Donc, les navettes, elles s'arrêtaient, machin, ça marchait pas très bien. Et puis on a dit, oh, mais c'est compliqué, on sait pas si ça va marcher, donc nous on a arrêté. Sauf que les Américains et les Chinois, avec des stratégies un peu différentes, des systèmes de financement un peu différents, largement portés par du pur privé aux États-Unis avec Waymo, Google en particulier, ont investi massivement. Waymo, la filiale de Google, d'Alphabet Google, c'est 30 milliards qu'ils ont, on estime à peu près, qu'ils ont mis sur la table.
C'est
colossal.
Ouais.
Mais ils ont continué et ils ont réussi. Et il y a à peu près deux ans, on a pu voir les signes très clairs que là où il y avait une incertitude, en fait cette incertitude sautait, que oui, la conduite autonome dite niveau 4, c'est-à-dire un véhicule qui se conduit tout seul avec quand même un PC de supervision à distance, mais en route ouverte ou vraiment dans les conditions réelles, c'était possible et ça allait se développer. Et c'était simultané aux US et aux États-Unis. Donc là, quand vous avez deux endroits différents avec des acteurs différents qui arrivent simultanément, le signal est fort. Si vous prenez après les autres aspects économiques, etc., on voyait que les coûts allaient diminuer. Et depuis, ça n'a cessé d'accélérer. Hein. Ça fait 18 mois, 24 mois, moi, j'estime qu'on est sûr que ça marche. Et en Europe, bah, comme on a arrêté les investissements, on a quelques acteurs qui sont là, français, européens, heureusement qu'ils sont encore là, qui forment un ferment d'une renaissance potentielle, mais qui ne sont pas du tout au même niveau de maturité. Donc là, on est à un moment critique sur la question uniquement de la partie conduite autonome, l'ADS, hein, le système software, où il faut réinvestir. Il faut vraiment qu'on ait quelques acteurs qui soient capables de rattraper. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire probablement pour moins cher que ce que ça a coûté aux Américains et aux Chinois, puisque bah, maintenant, on sait mieux comment ça fonctionne, etc. L'opportunité, c'est de se dire, en fait, s'il y a du véhicule autonome, que la technologie de l'autonomie soit totalement chez nous, peut-être à terme, ou partiellement, ou pas du tout. En tout cas, ça va arriver. La question, c'est qu'est-ce que l'on en fait ? Et là, on peut reprendre la main côté européen, parce qu'on a une vision sur le système de mobilité. On a une forte culture des systèmes complexes, une forte culture des systèmes de transport collectif, que les Américains ont moins, les Chinois, c'est plus discutable, mais qui peut nous permettre de se positionner sur la création de valeur. À la fin, on s'en fiche pas mal que les véhicules soient autonomes, pas autonomes. Ce qu'on veut, c'est transporter des gens et des biens.
Ouais.
Et ça, c'est un système complexe à inventer, à réinventer, à faire évoluer, qu'on peut faire évoluer dès maintenant, sans autonomie, et dans une perspective d'autonomie.
Et après tout, c'est en Europe qu'est née l'automobile, hein, finalement. C'est ça.
Exactement. Et les transports collectifs sont aussi très développés. Ouais. Voilà, donc on a une vraie culture industrielle et de système qui peut nous, et de pilotage public aussi, hein, d'articulation public-privé, qui peut nous permettre de reprendre l'initiative.
Et vous expliquez d'ailleurs que le véhicule autonome ne doit plus être pensé comme un simple objet technologique, mais comme un système de mobilité. Qu'est-ce que cela change concrètement dans la manière de concevoir les transports publics et privés en Europe ?
En fait, moi je pense que la frontière qui est très nette aujourd'hui entre les deux systèmes socio-techniques, le système voiture d'un côté et le système transport collectif de l'autre, va exploser. C'est-à-dire qu'il va y avoir un continuum entre les transports collectifs tels qu'on les connaît aujourd'hui et les petits véhicules qu'on appelle des voitures aujourd'hui. Et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin, ce qu'on veut, c'est des sièges qui circulent dans un territoire, dans un système de mobilité. Quand vous prenez le train ou le métro, vous imaginez pas acheter une rame ou vous allez louer en quelque sorte juste un siège qui voilà. Ça aujourd'hui dans la voiture ça n'existe pas. Ouais. C'est une approche qui va basculer sur la voiture et les frontières vont se brouiller. Et donc on aura des petits transports collectifs, des véhicules de 4 places qui sont en fait des transports collectifs jusqu'à du 50 places. Et tout ça sera à organiser, à orchestrer par la puissance publique, puisqu'en fait dans les systèmes de réseau, il faut quelqu'un qui pilote. On ne peut pas avoir juste les acteurs qui se débrouillent chacun dans leur coin. C'est des systèmes plutôt à caractère monopolistique, qui sont optimisés par une vision. Voilà. Il y a des enjeux d'intérêt public au sens qu'est-ce qu'on optimise ? Est-ce que c'est le coût ? Est-ce que c'est la pollution ? Est-ce que c'est l'égalité territoriale, etc. Donc ça, c'est des choix de politique publique. Donc la puissance publique va avoir un rôle déterminant. Et in fine, aujourd'hui, donc 80% des kilomètres parcourus par les gens, c'est la voiture. 20% c'est le transport collectif, l'ordre de grandeur, hein, c'est ça. Bah, la puissance publique a le potentiel de réinterroger cette distinction-là, de prendre la main aussi sur les 80% qui sont aujourd'hui pas du tout optimaux, dans une perspective d'impact social, économique et environnemental majeur. On peut faire un gain de productivité, on peut faire du gain de pouvoir d'achat, on peut faire du gain environnemental absolument majeur, puisqu'on peut diviser la taille des flottes, on peut réduire les distances parcourues par les véhicules. Donc on résout tous les problèmes par l'optimisation, qui va être, on peut le faire maintenant, mais qui va être accélérée par l'autonomie.
Et cette optimisation, vous défendez, vous, une approche très territoriale, hein, de la mobilité autonome. C'est important.
Oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, bon, la mobilité, c'est physique, donc c'est territorial, c'est concret, c'est local. La question, c'est qui est à l'œuvre derrière, avec quels objectifs ? On a des autorités organisatrices de la mobilité qui sont là pour mener à bien des politiques publiques, des choses que la somme des individus ou la somme des entreprises ne peuvent pas faire. La mobilité, c'est des liaisons de point à point. Une entreprise seule ne peut pas organiser la mobilité de tous ses salariés. Ça n'est physiquement pas possible, en fait. Par contre, un acteur qui est au-dessus peut le faire. Mais c'est un nouveau regard à porter sur la route, en même temps que sur les systèmes de transport classiques et les rapprocher, sur les limites, les frontières administratives. Les frontières administratives, aujourd'hui, ne sont pas associées au flux de mobilité. Hein. Donc, il faut redécouper la façon dont les choses s'organisent, plutôt en termes de bassins de mobilité ou d'axes, avec une coopération territoriale qui va permettre de structurer ces flux. Mais comme on sait le faire parfois, quand on a fait le Grand Paris, On a décidé de casser les frontières et de dire allez, on va réorganiser ça, ou les JO ou ce genre de d'événements. Là il faut qu'on arrive à le faire de manière structurelle, parce qu'encore une fois c'est 80% des kilomètres, c'est la bagnole, et c'est ça qui est réinterrogé sur les années, les décennies qui viennent, mais ça va commencer très vite dans les années qui viennent.
Alors j'ai encore deux petites questions, Thomas, et après je vous libère, parce que je sais que vous êtes un petit peu pressé. En tout cas, le Drive to Zero pour vous, c'est bien chargé. Alors, beaucoup de citoyens associent encore le véhicule autonome à une vision futuriste et même anxiogène, même si ça se démocratise. On voit notamment à Roland-Garros actuellement des véhicules, des bus qui sont autonomes. Selon vous, quelle sera la première application réellement utile, visible et acceptée par le grand public ?
Alors, l'acceptation, j'invite les gens qui ont la possibilité de tester les navettes de Roland-Garros ou d'autres qui circulent sur autoroute autour de Brie-sous-Forges notamment, les quelques cas qui existent, ou dans l'Indre, il y a quelques acteurs qui portent ça, Betty, Vinci, Mila, etc. Je les cite parce qu'il faut essayer de valoriser ceux qui font, de tester. Vous verrez, je l'ai fait. L'appréhension disparaît très très vite. Vous n'avez pas l'impression que c'est un robot qui conduit. En fait, c'est très fluide, c'est très efficace. Voilà. Et c'est ce qui est constaté aux États-Unis, c'est-à-dire que l'adoption est très rapide. Il y a forcément toujours une appréhension initiale, mais ensuite elle est très rapide. Donc ça, c'est la perception un peu subjective. Maintenant, vous avez aux États-Unis, peut-être un peu aidé par les acteurs du véhicule autonome, mais la communauté médicale qui commence à se mobiliser en disant il faut qu'on développe le véhicule autonome pour réduire l'accidentologie. Donc d'un point de vue statistique, d'un point de vue système juste d'impact, on a une dynamique d'adoption. Et donc pour venir à votre question, qu'est-ce qui va passer en premier ? En fait, je ne sais pas exactement. On a possiblement des approches par le robotaxi, donc plutôt dans les centres-villes. Parce que pourquoi les robotaxis se développent aux États-Unis, c'est vraiment le cas, parce que c'est le marché solvable. C'est là qu'on paye le plus cher. Le taxi, c'est très cher par rapport à tous les autres modes. Donc c'est là que ça se développe en premier. Donc c'est possible que ça se développe un peu comme ça. C'est possible que ça se développe aussi sur des cas plutôt orientés rural ou périurbain, là où on est dépendant de la voiture. Donc il y a plusieurs chemins possibles. Et à la rigueur, peu importe. Par contre, il faut qu'on se lance. Et qu'on se lance de manière intelligente, dans une perspective structurelle, dans une perspective de coopération publique-privée.
Alors pour terminer et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début de cet entretien, à savoir que vous appelez quand même à une stratégie européenne forte. Si vous aviez aujourd'hui, Thomas, face à vous, Ursula von der Leyen ou un haut commissaire à la stratégie au plan, comme Clément Beaune qui a ouvert aujourd'hui la journée, quelle serait selon vous votre mesure prioritaire à lancer immédiatement ?
La mesure prioritaire, il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une silver bullet, comme on dit en bon français, qui résout tous les problèmes, ou un bouton magique. Par contre, il y a déjà avoir un cadre et un objectif et une perspective. Ça, c'est une chose pour aligner. Et donc, cette perspective, le premier, c'est de penser système de mobilité. Parce que là, on peut reprendre l'initiative à l'échelle européenne. Alors que si on est juste à essayer de rattraper, courir après les autres, on ne reprendra pas l'initiative. Donc, penser système de mobilité et casser la frontière transport, voiture pour construire tout ça. Ensuite, il y a mettre en œuvre concrètement dans une perspective de coopération publique-privée. Et enfin ou surtout, il faut des moyens. Il n'y a pas de miracle. Si on veut innover, si on veut, il faut pouvoir payer des ingénieurs, des sociologues. Il faut payer des gens à faire des trucs qui sont... Il faut arrêter de payer que les systèmes du passé. Il faut payer les systèmes de demain, ça coûte plus cher que de payer des systèmes du passé qui sont hyper optimisés. Donc oui, au début, c'est pas très rentable au sens court terme, mais c'est la seule façon de passer là-bas.
C'est un investissement.
C'est un investissement. C'est un investissement sur le futur. Et notre problème en Europe, c'est d'avoir sous-investi et en plus dispersé, que ce soit l'argent public ou que ce soit l'argent privé. Donc il faut concentrer et il faut mettre des moyens. Et il nous faut quelques acteurs qui ont la taille critique pour maîtriser l'ADS, le système de pilotage, pour maîtriser le système d'exploitation des véhicules autonomes. Et c'est des acteurs, il y en aura quelques-uns en Europe, qui seront capables d'affronter des acteurs américains, chinois ou d'autres nations. Donc, concentrer les moyens. Voilà, donc, il faut une vision stratégique d'intérêt général, se lancer et concentrer les moyens.
Merci beaucoup, Thomas Matagne.
Merci à vous.
C'est un plaisir de vous avoir eu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le fondateur de ECOV. Et j'invite évidemment tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, à chercher sur le net et à lire votre note, parce qu'elle est extrêmement intéressante. Ça s'appelle « Reprendre la main sur le véhicule autonome ». Un grand merci à vous.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.